Alors voilà, merci pour cette occasion de partager la parole du Seigneur avec vous. Et ce matin, le titre de ce message, je l'ai appelé « La porte étroite », tout simplement en référence d'un passage biblique que nous allons lire dans Luc, Luc 13, que vous connaissez certainement ce passage, Luc 13, 22 à 30. La porte étroite. Luc 13, 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. » Donc, ce passage, nous voyons que Jésus, en fait, dans ce passage-là, ne met pas l'accent sur les miracles, sur des résurrections, sur des prodiges extraordinaires. Bien sûr, nous croyons que Jésus en a fait, hein. Bien sûr, nous croyons que Jésus agit encore aujourd'hui de cette manière. Mais nous voyons qu'il y a un accent différent dans ce passage. Pourquoi? Simplement, si je relis le verset 22, Jésus traversait les villes et les villages en faisant quoi? Enseignant et faisant route vers Jérusalem. Donc, l'accent dans ce passage est mis sur l'enseignement. Et je crois que c'est important, parce que sans l'enseignement de Jésus, on n'irait pas très loin sur le chemin de la foi, vous êtes d'accord? Peut-être qu'on aurait eu connaissance de plein de miracles, mais on n'aurait même pas compris comment ça marcherait. Et puis, on n'aurait même pas compris qu'on a besoin de croire, on n'aurait même pas compris qu'on a besoin de méditer la parole du Seigneur. Donc, l'enseignement de Jésus, je crois que c'est vraiment quelque chose de primordial, quelque chose de primordial qui nous a laissé. Donc, Jésus enseignait et il faisait route vers où? Vers Jérusalem. Jésus avait un but bien précis. Il allait vers Jérusalem. Et nous aussi, nous avons un but en tant que chrétiens, nous allons aussi vers Jérusalem, mais la Jérusalem céleste, vers la cité de Dieu. C'est notre but, c'est notre destinée dans notre vie. Après, on a chacun un chemin qui nous est personnel, mais on est tous en chemin en direction de la Jérusalem céleste. Amen. Et dans cette marche de Jésus vers Jérusalem, il n'a pas pris le chemin le plus court, parce qu'il nous a indiqué qu'il s'arrêtait dans les villes et les villages. Il prenait le temps. Il prenait le temps de quoi? De partager justement la parole de Dieu. Et nous qui sommes aussi en chemin vers la Jérusalem céleste, des fois nous pouvons aussi prendre du temps pour nous arrêter, traverser des endroits, et que le Seigneur nous donne l'occasion de partager sa parole. Parce que si nous sommes en marche vers cette Jérusalem céleste, qui est une cité glorieuse, alors il y aura quand même de la joie dans notre cœur et on aura aussi envie de partager cette joie autour de nous, comme le Seigneur l'a fait. Il n'allait pas simplement en courant en direction de son but, parce que bien sûr son but c'était d'aller à Jérusalem et de s'offrir un sacrifice pour nous racheter, mais il n'était pas non plus que axé sur son but. Il rencontrait des gens. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas non plus que axés sur la Jérusalem céleste. Nous allons aussi croiser des gens et nous allons aussi partager la foi autour de nous. Et l'enseignement de Jésus avait autorité. L'enseignement de Jésus avait une certaine force de persuasion, ça c'est clair. On le voit au verset 23, quand quelqu'un vient dire « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» On a très peu d'indications sur qui était cette personne. Hein. On ne sait pas son nom, on ne sait pas même si c'est un homme ou bien une femme. On ne sait pas si c'est un militaire, un haut gradé, un simple soldat, un serviteur, un notable. On ne sait pas son origine religieuse, si c'est un pharisien, un sadducéen, ou bien s'il appartenait à aucun groupe. On ne sait pas. Hein. On a très peu de renseignements sur cette personne. On ne sait pas si c'est un juif, ou si c'est un samaritain, ou même si c'est peut-être quelqu'un qui vient de plus loin encore. Et peut-être si on a peu d'indications, c'est pour que nous-mêmes aussi, on puisse se retrouver un petit peu dans ce personnage qui dit « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» On sait une seule chose sur cette personne en fait, c'est qu'en s'adressant à Jésus, cette personne le reconnaît comme le Seigneur. Donc c'est déjà quelqu'un qui croit, c'est déjà quelqu'un qui croit en Dieu et c'est déjà quelqu'un qui reconnaît que cet homme qui parle là avec autorité, il a quelque chose de particulier. C'est donc une personne qui croit. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et cette question, on peut se la poser des fois à nous-mêmes aussi sur notre parcours du chemin de la foi, parce que c'est un parcours qui n'est pas toujours facile. Vous en conviendrez certainement. Hein. Je pense que vous avez des fois des luttes, ça vous arrive. Je sais pas. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des luttes sur votre chemin de foi? Oui, hein, on est tous un peu de la même nature. Hein. Et cet homme-là ou cette femme-là se posait la question en entendant l'enseignement de Jésus, de dire, mais n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et vous savez, aujourd'hui, des fois, on entend un faux évangile du genre que Dieu, dans sa grande grâce et dans sa miséricorde, à la fin des temps, sauvera de toute façon tout le monde. Hein, peut-être vous avez déjà entendu ce genre d'évangile. Donc, il n'y a plus besoin de croire. Tout le monde, à la fin, de toute façon, qu'il ait cru ou pas cru, on ira tous au paradis, pour reprendre une fameuse chanson, qui n'est pas certainement pas inspirée par le Saint-Esprit. Alors, les gens qui enseignent ça, qu'ont-ils fait de Marc 16, verset 16 ? « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc la condamnation, elle est bien liée au fait de croire ou de pas croire. Celui qui croira sera sauvé, et celui qui croira pas sera condamné. Donc comment est-ce que tout le monde pourrait être sauvé à la fin sans avoir la foi? On voit bien que là, un tel enseignement ne vient pas du Seigneur. Maintenant, on va se concentrer un moment sur le verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Donc le Seigneur s'adresse à une personne qui a la foi, et d'ailleurs il prend à partie toutes les personnes qui sont autour de lui, parce qu'il répond aux gens qui sont là, il leur répondit, il s'adresse aux gens qui sont autour d'eux. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est donc une porte étroite. Le chemin du salut, c'est une porte étroite, c'est pas une porte large. Et si c'est une porte étroite, ça veut dire que c'est une petite porte aussi. C'est pas forcément une grande porte comme on peut voir devant une belle banque internationale hein, qui a pignon sur rue et c'est toujours assez frappant le devant d'une grande banque. Ou bien on pourrait penser aussi à une grande université, la porte d'entrée du bâtiment principal d'une université, c'est pas une petite porte, hein. C'est souvent une grande porte avec un grand hall. De la même manière, si vous allez dans une grande entreprise internationale, le siège social, ce sera aussi une grande porte. C'est pas une toute petite porte où il faut se baisser pour rentrer dedans. Hein. Je pense à une entreprise là que j'avais visitée dans le cadre du travail. Qui est dans les médicaments. mon Dieu, ce hall d'entrée et cette porte d'entrée, hein, c'est digne d'une cathédrale pratiquement. Hein. Mais Jésus, il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Donc c'est pas non plus la porte d'un magnifique hôtel 5 étoiles. Mais c'est plutôt une petite porte dérobée, un peu cachée. Et c'est vrai qu'à vue humaine, cette porte-là, elle a peu de cachets. Jésus aujourd'hui, hein, quand on pose la question aux personnes comme ça dans la rue, qu'est-ce que vous pensez de Jésus? Il y a peu de gens qui vont s'exclamer et puis dire, mais c'est incroyable ce que cet homme a fait, c'est magnifique, il a révolutionné la société, il n'y a pas eu plus grand penseur. D'ailleurs, le président français lui a donné la Légion d'honneur, hein? Non. Il y a peu d'hommes qui ont fait beaucoup de reconnaissance envers Jésus. Vous êtes d'accord? Il y a eu peu de titres d'honneur pour le Seigneur. Il est bel et bien une porte étroite. Et pourtant, cette porte qui a rien pour flasher, qui a rien pour attirer le regard, c'est une porte qui est d'une extraordinaire puissance. Pourquoi? Parce qu'elle nous ouvre le ciel. Parce que cette porte-là, un jour, nous permettra de voir la gloire de Dieu. Amen. Donc, si elle a peu de reconnaissance, peu d'autorité, qu'importe. Parce que nous savons qu'un jour, par cette porte-là, nous irons à la rencontre du Seigneur. Jésus a dit, je suis la porte. Lui-même est la porte. Et il n'y en a point d'autre sur la terre et dans les cieux. Efforçons-nous donc d'entrer par la porte étroite. Le verbe ici, s'efforcer, en grec, se dit agonizomai, agonizomai. Ce qui veut dire entrer en lutte, lutter dans des jeux sportifs, lutter avec des adversaires, combattre, lutter avec difficulté et dans les dangers, s'efforcer d'avoir un extrême zèle, obtenir quelque chose. Et ce verbe agonizomai était formé avec le mot en grec agon. Agon, hein? Agonizomai, agon. On retrouve le mot agon en grec. Qui voulait dire, en fait, qu'on va retrouver, pardon, dans notre français actuel, agoniser. Hein? Agoniser, en fait, le verbe lui-même vient à l'origine du grec et on retrouve ce terme agon. Et dans le passé, parce que le français, vous savez, il a évolué dans la signification. Hein. Alors, il est aussi avant, il est passé par le latin. Donc, des fois, les mots sont passés du grec au latin. Après, il y a eu des évolutions dans la langue française. Alors, à un moment, dans le latin, c'était vraiment un terme qui était de l'Église. Ce terme agon, et ce verbe agoniser, voulait dire lutter, faire des efforts. On avait encore la signification qui était proche de celle du grec à l'origine, hein? Lutter, faire des efforts. Et c'est que plus tard en français que ce verbe agoniser a pris le sens de décliner, de s'éteindre, et aussi dans le sens de la dernière lutte, mais celle qu'on va perdre. Hein? Agoniser, ça veut dire qu'on sait que la personne elle est en train de lutter, mais elle est déjà perdue. Dans le grec, ça voulait pas dire ça. Ça voulait dire lutter avec zèle, mais dans le but d'obtenir quelque chose. C'était pas dans la défaite assurée. Donc ici, le Seigneur nous encourage à lutter avec persévérance, lutter avec zèle, combattre. Et dans l'idée d'entrer justement par cette porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Donc la foi, elle est bel et bien un combat. Hein. Des fois, on entend que le salut, c'est hyper simple. Il suffit de croire. Oui, mais on n'explique pas toute la suite encore. Hein. Et le chemin de la foi, c'est un combat. C'est une lutte sans merci et on connaît notre adversaire. Mais gloire à Jésus, parce que cet adversaire, il a déjà été vaincu à la croix de Golgotha. Mais n'empêche que il reste pas inactif, hein. Et on va se retrouver des fois dans des situations bien difficiles, de découragement, où on va sentir que l'ennemi cherche à se mettre au travers de notre chemin. Donc, moi, j'ai traduit ce début de passage, combattez avec ardeur pour entrer dans la porte étroite. Paul dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Paul était proche de son départ et il nous laissait un peu comme un testament, c'est quelques mots. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. L'importance de garder la foi jusqu'à la fin de notre parcours. Ainsi, on voit bien que notre vie de chrétien n'est pas un long fleuve tranquille. Et ne soyons pas surpris de la fournaise qui parfois s'abat sur nos vies. Mais relevons le défi de la foi. Combattons avec ardeur, avec passion, avec zèle. Surmontons les dangers et les difficultés de la vie. Combattons le combat de la foi. Et que le Seigneur puisse nous donner d'achever la course en gardant la foi. Entrons par la porte étroite. Et vous savez, ce combat, c'est pas à mener avec les armes du monde. Hein. Je vous dis pas d'aller vous acheter un flubber ou bon, ça c'est pas très efficace hein, suivant le combat, mais un fusil d'assaut, c'est un peu plus à la mode ces temps. Bon, bref, je vous dis pas non plus d'aller vous inscrire à un cours de boxe. Hein, c'est pas ce genre de combat-là que le Seigneur nous invite, mais c'est bel et bien un combat spirituel et c'est un combat dans lequel on doit être zélé. Et c'est un combat qui se mène par la prière. Amen. Et c'est un défi. Et c'est un défi que je me lance à moi-même, hein, celui de la prière. Parce que je pense qu'en effet, si on peut prendre du temps dans la prière, il y a bien des combats qui vont cesser et bien des victoires qui vont nous être données. Et peut-être notre chemin de foi va être un peu plus tranquille et moins perturbé. Parce que nous aurons la paix, on a chanté, hein, la paix dans la tourmente. On l'a chanté ce matin. Et des fois, à cause du manque de prière, et ça, je m'exhorte moi-même, hein, on est dans la tourmente, mais on n'est pas dans la paix. Parce qu'on perd un peu de regard notre Seigneur. La fin du verset 24. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer dans le royaume, et ne le pourront pas. Ici, ne le pourront pas, c'est un verbe qui, en grec, se dit eskuo, et qui veut dire être fort, être robuste, avoir la force pour vaincre. Donc, tout le verset 24, on pourrait le traduire ainsi, combattez avec ardeur pour entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'auront pas la force pour vaincre. On est bien dans un verset qui met l'accent sur le combat. Hein. Je redis une fois cette traduction. Combattez avec ardeur pour entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'auront pas la force pour vaincre. Et ce verset me faisait penser à un autre, aussi dans l'évangile de Luc, que je vous lis, juste un peu plus loin, Luc 16:16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y rentrer. La loi et les prophètes, c'est l'ancienne alliance. Et depuis lors, depuis Jean-Baptiste, c'est la nouvelle alliance et chacun use de violence pour y rentrer. Nous sommes donc là, loin d'un évangile à l'eau de rose, un évangile juste sentimental. Mais usons de violence dans notre combat, ainsi le diable reculera. Opposons-nous à lui et il nous fuira par la prière. Amen. Et on va relire tous les versets qui suivent pour voir qu'en fait c'est comme un commentaire de ce que le Seigneur enseigne par ces quelques mots. Verset 25. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous dira « Je ne sais d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors et il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Il y a une description qui est assez terrible. On voit des gens qui sont en train de tambouriner à la porte du ciel. Et le Seigneur de leur répondre, « Je ne sais d'où vous êtes. » Et ce sera trop tard, le jour du jugement, de commencer à se justifier devant Dieu. Hein. « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu enseignais dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis. » Je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Ça sert à rien, c'est inutile de passer du temps à la table du Seigneur, dans sa maison même, si en fait on met pas en pratique les enseignements du Seigneur. Si on n'y met pas en premier lieu pour mettre en pratique les enseignements du Seigneur, il faut quoi? Il faut la foi. Hein, c'est le point de départ, il faut croire. Donc si on n'y met pas notre foi, c'est complètement inutile d'aller écouter la parole de Dieu si on n'y met pas notre foi. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Alors, on n'a pas envie d'être des ouvriers d'iniquité. Et comment ne pas être un ouvrier d'iniquité? Jésus, dans un autre passage parallèle dans Matthieu 7, a dit, vous qui commettez l'iniquité, l'injustice, vous qui commettez, c'est-à-dire, il y a l'idée de pratiquer, mais sans se repentir. Donc, un bon ouvrier, c'est pas un ouvrier qui pêche plus, mais c'est un ouvrier, s'il pêche, il se repent, parce qu'il reste pas dans cette idée de commettre et de demeurer dans son péché et de pas se repentir. Alors, un bon ouvrier, c'est celui qui demande pardon au Seigneur et qui demande à Dieu l'aide pour changer l'attitude de son cœur. Et je pense que là-dessus, on n'a jamais fini dans ce domaine. Hein. Le cœur de l'homme, il est tortueux, hein, et... Il n'y a pas de miracle si ce n'est la grâce du Seigneur dans nos vies. Hein? On a besoin de cela. Et voici, il y en a des derniers, verset 30, qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Alors, comment être parmi les premiers? Ben justement, hein, en étant des ouvriers qui se repentent, qui mettent leur foi dans la parole du Seigneur, et qui, pour reprendre cette traduction que j'ai faite de ce passage de Luc 13, verset 24, « Combattez avec ardeur pour entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'auront pas la force pour vaincre. » Donc, qu'on puisse s'encourager dans nos combats, par la prière, passer du temps dans la prière, afin que le Seigneur nous donne la force pour vaincre, afin que le Seigneur nous aide pour rester debout pour son royaume, afin que l'ennemi n'ait pas l'avantage sur nous, que l'ennemi ne nous laisse pas dans l'abattement, dans le découragement, dans la faiblesse, mais que le Seigneur nous rende plus que vainqueurs en toutes choses. Amen.